Le sens des choses.
Stéphanie Bonvicini.
Jacques Attali. Bonjour, nous sommes très heureux avec Jacques Attali de vous retrouver pour cette série d'émissions durant lesquelles, au cœur de l'été et avec nos invités, nous réfléchissons à la question « De quoi manger est-il et sera-t-il le nom ?» Nous sommes cet après-midi en compagnie de la journaliste Natacha Polony et de l'anthropologue Richard de Lerins. Jacques Attali.
Bonjour, j'aimerais d'abord que chacun d'entre vous nous disiez qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la nourriture et à son avenir. Natacha Polony.
Je pense que c'est une question d'éducation. Et c'est ça qui nous raconte ce que manger signifie. C'est que la façon dont nous mangeons et le plaisir que nous y prenons est largement forgé dans l'enfance. J'ai grandi avec des parents qui m'ont appris que on devait choisir ce que l'on mangeait, la qualité, le temps que l'on prend, que l'on consacre à cela, le fait d'en parler, parce que manger est lié au langage. Et j'ai grandi avec cela de telle sorte qu'à l'âge adulte, c'est devenu une évidence et que je me suis mis ensuite à réfléchir à ce que cela signifiait.
Et vous, monsieur Delras ?
Eh bien, c'est aussi d'une certaine façon lié à une expérience qui est attachée à mon enfance, parce que je me souviens, c'est un moment très précis. J'avais 9 ans et j'étais scolarisé en France. Et comme beaucoup d'enfants, je partais, comme tous les enfants français souvent, partais en classe de neige. Et je suis parti une semaine en classe de neige. Donc j'ai quitté mes parents, ma famille. Et pour une raison que, à la fois assez surprenante et en même temps pas si surprenante que ça, je suis rentré de classe de neige affamé parce que je mangeais pas beaucoup là-bas, je faisais beaucoup de sport. Et quand je suis arrivé, je rentrais chez moi après cette semaine où, j'allais dire, la nourriture n'était pas formidable. Et puis, comme je faisais beaucoup de sport, j'avais faim. Et tout à coup, la première chose que j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, tu vas me faire un couscous. Et ce couscous, pour moi, c'était une révélation.
C'est votre madeleine.
J'ai compris ce que c'était. C'était ma madeleine de Proust. Et ça rattachait aussi à des traditions familiales. Et donc, je me suis régalé de ce couscous. Et depuis, il est resté quelque part enraciné dans ma mémoire et dans ce désir de comprendre ce qui s'était joué là-dedans.
Et c'est ça qui vous amène aujourd'hui à enseigner l'art culinaire en Californie.
Oui, l'anthropologie, les relations entre la cuisine, la génétique, la nutrition et la façon dont, on va dire, les comportements alimentaires sont en train de se redessiner à beaucoup d'égards, pas simplement aux États-Unis, bien sûr aussi en France et dans l'ensemble des pays.
Qu'est-ce qui vous a fait partir en Californie ?
Ce qui m'a fait partir en Californie, c'est un peu aussi à hasard, j'étais chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. J'ai reçu un prix du CNRS pour mes recherches et à la suite de ça, j'ai aussi, dans la foulée, reçu une invitation pour passer un an à l'Université de Californie à Los Angeles, à UCLA, c'était en 2008. Pour travailler sur les comportements alimentaires. Et arrivé là-bas, j'ai commencé à enseigner. On m'a dit écrit un programme de recherche, dépose. Et puis bon, j'ai eu la chance que le premier programme de recherche que j'ai déposé a reçu un gros financement américain. Et depuis 2008, on est en 2017, j'y suis resté.
Natacha Polony, vous avez une activité diverse, mais vous vous intéressez à la nourriture et vous en avez fait une dimension d'une vision du monde, d'une certaine façon.
En effet, parce que je me suis intéressée à la façon dont se constitue l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine, au départ, chez le petit enfant, se construit par les sens, par les 5 sens. Nous sommes dans une société qui hypertrophie 2 sens, ceux de la distance, l'ouïe et la vue. Et nous avons dans les sociétés occidentales de plus en plus une carence sur les sens qui sont les sens de la proximité, à savoir le toucher, le goût et l'odorat. Et or, ces sens-là sont ceux qui sont le plus reliés à notre mémoire, notre affect. C'est-à-dire que l'histoire du couscous est fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'on comprend que la façon de se nourrir est reliée à un vécu. Tout à coup, elle a forgé la mémoire, elle a forgé une émotion qui va nous permettre ensuite de rechercher la reconstitution de cette émotion. Et le moment où l'on se nourrit, ça n'est pas seulement un acte qui nous permet d'absorber des calories et de survivre, c'est un acte non seulement éminemment culturel, mais c'est un acte aussi qui nous permet de nous rattacher à notre incarnation, à ce qui fait que nous existons ici et maintenant. Et en cela, c'est un acte qui nous permet de relier à la fois notre sensorialité et le langage, puisque cet acte-là, nous allons ensuite le traduire dans des mots, le faire exister à travers les mots et perpétuer ce vécu par les mots. Et c'est cela qui fait, pour moi, l'essence même de l'humanité.
Monsieur Jaurès, vous êtes d'accord avec ce fait que se nourrir met en jeu les cinq sens ?
Je suis tout à fait d'accord et par le hasard de cette rencontre, un de mes premiers champs de recherche quand je suis arrivé aux États-Unis a été de comprendre ce qu'on appelle la génétique du goût. C'est-à-dire le fait que la perception que nous avons, nous humains, des saveurs et l'intensité de cette perception, elle est aussi génétiquement déterminée. Et ça, on le savait depuis assez longtemps, mais les humains peuvent être classés ou catégorisés dans trois grands groupes qui sont ce qu'on appelle les super-testeurs, les testeurs et les non-testeurs. Et ça, c'est codé au niveau d'un gène. On sait exactement à quel endroit dans la séquence, on va dire, de notre ADN. Et donc, les humains, de la même façon qu'il y a grosso modo trois couleurs dans les yeux, enfin, c'est pas lié, bien sûr, avec le goût, les yeux bleus, marron et vert, eh bien, les super-testeurs et les testeurs ont une perception des saveurs, et des saveurs douces, des saveurs amères, qui est plus ou moins tamisée, plus ou moins intense. Et ça, c'est
alors,
très important.
Quelle est la distinction entre les trois? Vous pouvez préciser les trois?
Oui, alors, les trois, ceux qu'on appelle les super-testeurs, ce sont des individus, bien sûr, ça marque dès l'enfance, qui ont une perception des saveurs douces qui est beaucoup plus intense, qui leur procure beaucoup plus de plaisir associé à la douceur, au sucre, et qui également perçoivent très intensément l'amertume, qui fait qu'ils ont une aversion plus naturelle, on va dire plus génétique, sur l'amertume. C'est-à-dire que des enfants, vous le voyez, des enfants, dès qu'ils sortent de l'alimentation, on va dire bébé, ils commencent à être socialisés avec des modes d'alimentation qui sont plus proches des modes sociaux. Ils détestent les brocolis, ils détestent les endives, etc., les super-testeurs. Alors que les non-testeurs, c'est pas qu'ils ne perçoivent pas les saveurs, mais...
distinction entre super-testeurs et testeurs.
Alors, testeurs, c'est ceux qui sont entre les deux, qui sont entre les non-testeurs et les super-testeurs.
Et alors, les non-testeurs, c'est quoi?
Alors, les non-testeurs, ce sont ceux... Alors, mon fils, par exemple, est non-testeur.
Il mange n'importe quoi.
Non, il mange pas n'importe quoi, forcément, mais ils ont pas cette aversion sur les saveurs très fortes et l'amertume, ce qui fait que vous avez des enfants qui ont une alimentation plus diversifiée.
Ils mangent de tout, en fait.
Alors, la beauté de la culture, si je puis dire, de la culture qui vient se rajouter là-dessus, c'est que quand ces enfants, quel que soit, j'allais dire, son capital génétique de super-testeur, de testeur, de non-testeur, ils sont exposés à une diversité de saveurs, et ben finalement la culture surmonte, on va dire, ce capital génétique, et des gens qui étaient des super testeurs, c'est-à-dire qui étaient très centrés sur les saveurs douces, qui aimaient pas l'amertume, si on les expose à l'amertume, à un moment, ben ça dépasse leur aversion naturelle, et puis ils mangent de tout. En revanche, si vous donnez à des enfants qui sont super testeurs, vous leur donnez que ce qu'ils aiment, c'est-à-dire des saveurs douces, vous écartez, etc., vous les fixez de façon encore plus durable dans cette diversité alimentaire. Voilà.
Natacha Polony. C'est là que la question de l'alimentation s'ouvre sur la question politique. Parce que nous sommes dans une société qui aujourd'hui abuse des saveurs sucrées. Pour des raisons de, j'allais dire, de contrôle social et de consumérisme. Pourquoi ? Parce que la saveur sucrée, en effet, c'est la plus simple. C'est celle de l'enfance. Petit à petit, on arrive jusqu'aux saveurs complexes et on peut même dire que tout en haut de l'échelle, il y a l'amertume, la saveur de la sagesse, celle qu'il faut conquérir tout au long d'une vie pour en comprendre la complexité. Mais nous sommes dans une société qui met du sucre partout, qui favorise une alimentation molle.
Pardonnez-moi, vous dites nous sommes dans une société, mais c'est vrai depuis 10 000 ans.
Non, justement. Si vous regardez, il y a évidemment des mélanges de salé, de sucré dans toutes les cultures, et il suffit de regarder en Occident, en France en particulier, la cuisine médiévale pour comprendre qu'en effet il y avait du sucre. Là, ça n'est pas pareil parce que ce n'est pas le même type de sucre, c'est du sucre...
Quand vous dites là, ça veut dire maintenant.
Oui, aujourd'hui. C'est du sucre industriel qui est introduit un peu partout de façon masquée pour faciliter l'absorption.
Vous dites que la présence de sucre de plus en plus intense pour des raisons industrielles correspond à une volonté de contrôle social.
Oui, parce que le sucre est addictif. Parce que le sucre...
Est-ce que c'est une volonté de contrôle social ou simplement une volonté de pousser à la consommation?
Disons que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on pousse à la consommation en réduisant la complexité des sensations humaines. En laissant, du coup, les individus à l'âge de l'enfance, à l'âge même du petit enfant, pour qu'il puisse justement absorber systématiquement et avoir encore plus envie de ce sucre.
Mais Natacha Polony, les médecins aujourd'hui, comment est-ce qu'ils interviennent dans ce processus-là de contrôle social et de politique publique sur ces sujets-là ?
C'est très paradoxal, c'est-à-dire que si vous regardez le lien entre l'industrie agroalimentaire et par exemple les lobbies pharmaceutiques, vous voyez qu'il y a en permanence à la fois des alertes de la part du corps médical pour dire qu'il est extrêmement dangereux d'introduire du sucre et du gras partout, et en plus pas n'importe quel sucre, encore une fois, du sucre transformé, du saccharose et non pas le fructose, le miel qu'on pouvait avoir autrefois dans l'alimentation. Mais cette industrie agroalimentaire a un allié formidable, les lobbies pharmaceutiques. Il y a quelques années, aux États-Unis, les fabricants de statines, c'est-à-dire cette molécule qui soigne le cholestérol, ont proposé au fast-food et à McDonald's de mettre directement des distributeurs de statines dans les restaurants McDonald's. Comme ça, on absorbait le poison et le contre-poison en même temps. Ça a été refusé, mais c'était une idée qui avait germé. Et ça raconte, en effet, le lien qu'il peut y avoir entre l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique dans cette façon de contrôler l'alimentation.
Vous qui êtes vivez pour l'essentiel de votre temps aux États-Unis, que pensez-vous de cette idée de Natacha Polony ? C'est-à-dire que la société américaine est ressentie, je pense en particulier un livre qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui s'appelle « In the Context of No Context » de George Trow, il expliquait que la société américaine était une société enfantine, et durablement enfantine, et que les mythes américains étaient d'abord des mythes enfantins, les contes pour enfants, les bandes dessinées, etc. Est-ce qu'on retrouve ça dans la nourriture ? Est-ce que c'est une nourriture enfantine ? Et est-ce que cette société et une société qui est contrôlée socialement maintenant les gens dans l'enfance.
Richard Delérens.
Pour répondre à cette question, je voudrais faire un tout petit, puisque je vis effectivement aux États-Unis, en Californie, un tout petit retour en arrière sur la façon dont c'est finalement construit, aussi bien d'un point de vue, on va dire, politique, le système alimentaire américain aujourd'hui. Et quand je suis parti en 2008 aux États-Unis, de mes première question de recherche et qui répond d'une certaine façon à vos interrogations a été de me dire finalement à quel moment aux États-Unis s'est construit ce système, ces modes de consommation alimentaire. Et en fait, je suis parti d'une question tout à fait simple que tout le monde peut comprendre. J'ai pris les livres de cuisine qui étaient publiés aux États-Unis à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les livres de cuisine qui sont publiés aux États-Unis jusque dans les années 1910 à peu près, ce sont essentiellement ou des livres de cuisine anglais qui sont publiés aux États-Unis ou des livres de cuisine français traduits en anglais. Mais au fond, il n'y a aucune différence vraiment entre les Européens et les Américains. Et tout à coup, au milieu des années 1910, et ça n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale, je vous dis tout de suite, vous voyez qu'en l'espace de 5 ans, une nouvelle génération de livres de cuisine apparaissent aux États-Unis, qui n'ont plus rien à voir cette fois-ci avec les livres de cuisine, on va dire avec les recettes et la façon de cuisiner des Anglais, ni même de référence aux Français, mais qui sont proprement américains et qui sont sur des principes complètement différents. Alors, ma question, c'était qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue anthropologique qui a fait que les Américains sont devenus des Américains dans leur façon de manger, alors qu'avant, finalement, c'était des populations européennes qui étaient arrivées essentiellement au début du XXe siècle. Les Américains sont surtout des Européens qui ont immigré. Et tout à coup, ils mangent différemment.
C'est quoi différemment ?
Alors différemment, c'est-à-dire que vous voyez apparaître dans les livres de cuisine d'abord des préfaces différentes où on commence à parler de nutrition. Et on commence à parler d'alimentation d'un point de vue, bien sûr, de calories, d'un point de vue de protéines, de lipides. Et on conçoit des recettes de cuisine à partir d'une vision énergétique de l'alimentation et une vision nutritionnelle. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est la convergence de trois choses qui se produisent au début du XXe siècle aux États-Unis sous la présidence de Theodore Roosevelt. La première, c'est le fait que se développe la nutrition scientifique aux États-Unis, d'abord à Yale, sous l'égide de deux grands professeurs qui vont travailler sur la nutrition, qui est Atwater et Chittenden, avec l'idée de savoir finalement qu'est-ce qu'il faut pour le corps humain pour être en santé, le minimum d'alimentation nécessaire. Donc ils ont une réflexion, ils ont avancé vraiment et posé les bases d'une nutrition scientifique. Et d'autre part, l'autre aspect, c'était un personnage qui est peu connu ici, qui s'appelle Helen Richards, qui est une américaine, qui était la première diplômée du MIT, c'est une femme, qui a développé une école de cuisine, qui s'appelle la Boston Cooking School, avec l'idée de promouvoir cette nutrition scientifique, et elle l'a fait, et elle a publié les premiers livres de recettes de cuisine, et elle a développé dans les universités américaines pendant les 20 ans qui ont suivi, ce qu'on appelle les home economics, c'est-à-dire la façon dont les jeunes filles américaines à l'université devaient apprendre à cuisiner.
Et pourquoi cette rupture à ce moment-là, alors ?
Alors, cette rupture parce que ça correspond à un moment où l'idée étant d'améliorer le mode de vie des Américains, d'améliorer le bien-être et d'être plus efficace, d'avoir une alimentation qui a une plus grande efficacité, qui est plus fonctionnelle, qui, le président Theodore Roosevelt, dans cet esprit, commande une grande étude à un économiste américain, qui est un des pères de la science économique américaine, qui est Irving Fisher, qui publie une étude sur la vitalité du peuple américain. Et derrière, dans le rapport, il s'agit de promouvoir cette nutrition scientifique et une cuisine qui va avec.
Oui, mais du coup, contrairement à ce que vous dites, me semble-t-il, c'est à ce moment-là qu'apparaît l'industrie du poison de la nourriture américaine, McDonald's et tout ce qui va avec.
Alors, McDonald's, c'est un peu plus tard, mais ça, ouais. c'est le moment où se développe aussi pas simplement l'agriculture, mais également les grandes entreprises industrielles américaines, parce qu'elles s'appuient sur ces recherches, justement. Elles s'appuient sur ces recherches. Donc de cette idée de rationalisation de l'alimentation, appuyée sur ce discours scientifique et institutionnellement, avec comme vecteur institutionnel les home economics dans les universités, pour les jeunes filles, on leur apprend qu'est-ce que c'est que cuisiner de façon rationnelle. Il y a une vision économique et une vision nutritionnelle qui s'articulent ensemble. Et c'est ça qui va développer, la façon dont les Américains vont se nourrir.
Natacha Polony.
Mais je pense que ce qui est très intéressant dans ce processus, c'est qu'il nous montre quelque chose qu'on retrouve dans tous les domaines de la vie humaine, c'est-à-dire comment l'obsession de la performance, l'idéologie de l'efficience, de l'efficacité, petit à petit détruit la dimension culturelle d'un domaine, et du coup aboutit à une perte totale de bon sens de la part des individus qui sont soumis à ce processus industriel, de telle sorte que ça les rend incapables ensuite de décider de façon autonome. Et c'est cela qui aboutit à ce qu'on appelle la malbouffe. C'est-à-dire que ce processus industriel a fait perdre toute conscience de la part des individus de ce que doit être tout simplement un repas à peu près équilibré, ce qui venait plus ou moins naturellement dans une culture humaine telle qu'elle existait avant.
Oui, vous dites que ça venait naturellement, alors que vous venez de dire qu'au contraire, la science a essayé d'y introduire un peu de raison.
Alors, en réalité, la science rationnelle, enfin, la science de la nutrition a essayé de construire un discours rationnel qui est devenu un discours culturel, parce que les Américains, culturellement, ont intégré, alors ça a pris quand même quelques décennies, mais ont intégré cette culture de la nutrition. Pour vous donner juste un exemple qui est très parlant, je faisais une conférence il y a quelques années, justement, aux États-Unis, et à la fin de ma conférence, Il y a une femme qui me pose une question, qui me dit, elle commence sa question en me disant, si le matin j'ai pas mes 150 grammes de protéines, je peux pas commencer ma journée. Ben je lui dis, voyez, c'est ça par exemple, c'est ça la culture nutritionnelle, c'est que en France, personne ne pourrait vous dire, si le matin j'ai pas mes 150 grammes de protéines, je peux pas démarrer ma journée. Ils vous diront, si j'ai pas eu mon café, si j'ai pas eu mon croissant, je peux pas commencer ma journée. Alors que eux, ils ont déjà, intégré cette culture nutritionnelle dans leur comportement alimentaire. Et ça a créé un socle commun américain, parce que les Américains, évidemment, c'est cette mosaïque d'ethnicité et de population qui ont... Mais le discours nutritionnel et cette culture nutritionnelle a créé un socle commun et un commun dénominateur à toutes ces populations.
Mais est-ce que vous, ce que vous dites, Natacha Bonny, c'est que la culture saine et raisonnable, je caricature exprès pour essayer a été le résultat d'une longue évolution millénaire qui a conduit à ce qu'elle devait être et qui ensuite a été rompue par l'industrialisation. Mais est-ce qu'on peut conclure de ce que vous dites, vous, que la recherche d'efficacité et de raison dans la nourriture a conduit à son industrialisation?
Richard
et donc
Bollavance.
À une rupture des nécessités de l'équilibre de santé.
Absolument, absolument. Cette rationalisation et, on va dire, ce substrat scientifique autour de la nutrition a conduit à une désagrégation, une dissolution progressive aux États-Unis, pas totale, hein, bien entendu, des cultures culinaires, même si elles existent encore de façon... Mais le socle industriel et le socle commun, c'est cette culture de la nutrition. À tel point... Et en ce sens, je rejoins tout à fait ce que dit Natacha Polony, c'est que la culture et la culture culinaire est essentielle même d'un point de vue de santé. Je vais vous donner juste un exemple pour vous éclairer. Bien sûr, comme Français, quand on est aux États-Unis, on s'interroge, surtout anthropologue de l'alimentation, qu'est-ce qui fait la spécificité, notamment la spécificité du système culinaire français. les principes qu'ils gouvernent. Et les Français ne le voient pas parce qu'ils le vivent. Mais un des principes qui est essentiel et qui revient à la question du sucre, c'est que un des principes qui gouverne le système culinaire français, c'est qu'on sépare les saveurs sucrées des saveurs salées. Les saveurs sucrées sont rejetées à la fin, enfin rejetées, sont positionnées à la fin du repas, au moment où la prise alimentaire se termine. À ce moment-là, on a les saveurs sucrées. Et donc, on ne mélange pas ça. Et ça, ça a des conséquences sur la santé qui est absolument énorme. Une des conséquences et un des corrélats de ça, c'est que les Français sont les plus faibles, par exemple, consommateurs de soda en Europe. Pourquoi ? Alors, pas parce qu'ils n'aiment pas les sodas, c'est parce qu'il y a très peu de points d'entrée pour les sodas qui ont des valeurs sucrées, très peu de points d'entrée dans le système alimentaire français. On ne peut pas prendre des sodas avec du foie gras ou avec un steak frites, ou etc., parce que c'est ce mélange du sucré salé. Donc du coup, comme les Français mangent à l'heure, que les Français aussi également, plus de 85% de leur prise alimentaire se fait pendant les repas, il y a très peu de points d'entrée. Il y a quelques années, un des grands fabricants de sodas américains m'avait demandé, pourquoi les Français sont les plus faibles consommateurs de soda ? Alors, ils avaient dépensé beaucoup d'argent en marketing, et j'ai dit, mais écoutez-moi, la réponse, je vais vous l'apporter en 5 minutes. Et ça tient à ça, le sucré salé.
Et pourquoi c'est excessivement logique, et ça nous montre que notamment la culture culinaire française est une culture qui repose sur le principe de plaisir et de développement des perceptions, c'est que le sucré sature les papilles. Et c'est pour ça qu'on le met en fin de repas, parce que sinon on ne perçoit absolument pas les autres saveurs. Et c'est pour ça que si vous regardez des menus du début du XXe siècle, par exemple, vous remarquerez que le foie gras n'était jamais servi en entrée. Il était servi après les viandes et les poissons, parce qu'on le servait avec des vins doux naturels. Et donc, il aurait été impossible de percevoir les autres vins si on avait commencé le repas avec ces vins doux naturels. Donc il y a une logique, et c'est une logique de plaisir. Et c'est une logique de développement des sensations.
Richard Delorens, justement, est-ce que cette manière de nous nourrir, elle est en phase avec le contexte de la biologie, de l'évolution, ce rythme de 3 fois par jour, cette association de types d'aliments ?
Ah, ça c'est une autre grande question. Je ne sais pas si on peut répondre comme ça d'emblée à cette question, parce que l'évolution, elle est très ancienne. On vient de découvrir il y a peu de temps que les premiers fossiles humains, ça date de 300 000 ans. Donc on pensait que c'était 170 000, maintenant on est à 300 000. Donc je pense qu'il faut regarder déjà, disons, depuis la naissance de l'agriculture. L'agriculture a créé des écosystèmes et des coévolutions entre les hommes, les plantes, les hommes, les animaux. Et un autre sujet qui, à mon sens, est d'ailleurs extrêmement important, qui est entre les hommes et les microbes. La question, c'est que les civilisations ont construit des écosystèmes qui sont pas toujours les mêmes, d'ailleurs en fonction des ce qu'on appelle les centres d'origine de l'agriculture, c'est-à-dire que des plantes cultivées. Il y a 5-6 grands centres d'origine des plantes cultivées. Il y en a un en Mexique avec le maïs, il y en a un dans le croissant fertile, il y en a un en Chine, etc. Donc c'est autour de l'origine des plantes cultivées, se sont créés des écosystèmes, et ces écosystèmes, effectivement, ils sont restés relativement ils ont évolué de façon relativement stable au cours des millénaires. Maintenant, c'est plus vraiment le cas, c'est plus compliqué que ça. Et pour répondre à un peu brièvement et sommairement à votre question, c'est aussi bien l'agriculture que l'alimentation est le fruit de ces milliers d'années, on va dire, de coévolution entre l'homme, les animaux et les plantes. Oui.
C'est-à-dire que là aussi, Natasha, on s'aperçoit que ce que la logique industrielle a cassé, c'est le lien entre la géographie et la culture humaine. C'est-à-dire que la culture gastronomique découle en fait de nécessités géographiques. C'est-à-dire que cette culture gastronomique, elle est dictée par la présence de fleuves, par la lumière, par le terroir, puisqu'en fait la notion de terroir, elle recouvre tout cela, c'est-à-dire les sols, la terre, la culture humaine à partir de ces sols. Et quand, le vignoble français par exemple repose sur les siècles passés, notamment par les moines cisterciens, à déterminer s'il fallait planter tel cépage à tel endroit plutôt que 2 mètres plus loin, parce que en fait on s'apercevait que le sol étant différent, le goût du vin n'était pas le même. Et on peut aujourd'hui reconnaître, et c'est ça la logique du terroir, un vin suivant la vallée dans laquelle il a été produit, le coteau. Pourquoi ? Parce que ça modèle le goût différemment. La logique industrielle vient de détruire tout cela, c'est-à-dire qu'elle impose partout les mêmes goûts. Ça se fait au détriment de la terre, au détriment de l'environnement. Ça se fait aussi au détriment du lien entre l'homme et son alimentation, c'est-à-dire sa capacité à comprendre les lieux qui l'entourent.
On va faire une pause, mais je voudrais terminer sur une perplexité, parce que ce qu'on dit là est valable dans les périodes anciennes, me semble-t-il, pour les gens qui avaient les moyens d'avoir ces bons repas, tandis que l'immensité du peuple souffrait de la famine et mangeait des choses insupportables. Peut-être qu'on reviendra à ça dans une seconde.
Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day is a day, oh.
A
beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and we want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Day, oh.
Daylight come and me want go home.
Day, is a day, is a day, is a day.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Day-o, day-o,
daylight come and me want go
home. Day, is that day, is that day, is that day, is that day,
daylight come and me want go home.
Arrive à la fonte, day-o. Jacques Attali.
Oui, alors cette discussion sur la nourriture qui a été rompue dans son lente évolution par l'industrialisation pose peut-être la question aussi de savoir si l'industrialisation n'a pas aussi quelques bons côtés, à savoir qu'elle aurait permis à des gens qui n'avaient pas accès à une nourriture saine pour des raisons économiques, ont pu l'avoir. Autrement dit, est-ce que la nourriture populaire du peuple dans les temps anciens, jusqu'au début du XXe siècle, est-ce qu'elle était saine, est-ce qu'elle était raisonnable, ou est-ce qu'au contraire l'industrialisation a permis d'arriver à quelque chose qui soit plus conforme aux exigences de, non seulement de l'efficacité, mais de la santé ?
Natacha Polony.
Il y a plusieurs questions que vous posez là, qui sont toutes absolument essentielles. Mais pour revenir à ce que vous disiez juste avant la pause, la notion de terroir s'applique à ce qu'il y a de plus populaire et de plus pauvre dans la nourriture. Il ne s'agit pas de parler de foie gras et d'huîtres. Mais si vous regardez la gastronomie française, si vous regardez les plats qui font la gastronomie française, ce sont très souvent des plats de pauvres, des plats de récupération, l'exemple type étant de la bouillabaisse qui était faite avec les restes des poissons non vendus. Et dans les régions les plus pauvres, le principe de la gastronomie, c'est que vous avez des pommes de terre et du cochon et vous devez faire 365 jours de repas par an avec ça. Et c'est ça qui développe l'inventivité, à partir de ce que donne la terre, de ce que donne le sol. Alors, évidemment, l'industrie permet de nourrir plus de gens. Et c'est ça, sa promesse extraordinaire.
De façon plus diversifiée.
Bien sûr, et de façon plus diversifiée. Et au début, elle a constitué un progrès. aujourd'hui, on s'aperçoit que s'il y a eu des progrès indéniables dans l'hygiène autour de la nourriture, c'est-à-dire que, en effet, on a une nourriture qui est beaucoup plus saine dans le, du point de vue bactériologique. Pour autant, c'est une nourriture qui, du point de vue chimique, aujourd'hui n'est plus, absolument plus saine et dont on s'aperçoit qu'elle pourrait poser des problèmes, que c'est la logique industrielle appauvrit les sols, donc fait baisser les rendements, et on s'aperçoit également que la conséquence est d'ordre culturel et du point de vue de la santé, c'est en train de détruire, de provoquer des épidémies comme celle de diabète ou des choses comme ça, parce que la destruction du bon sens culinaire des individus fait qu'ils ont tendance à se gaver de produits qui sont absolument néfastes pour leur santé.
Alors, monsieur Dolores, peut-être peut-on rester une seconde sur l'industrialisation comme bilan positif, négatif dans la nourriture.
Je rejoins assez ce que dit Natacha Polony, à savoir que c'est sûr que dans le début du XXe siècle, l'industrialisation de l'alimentation a permis l'accès à des prix beaucoup plus abordables, par exemple de la viande. Ça, c'est absolument incontestable, de la viande, des volailles, du porc, etc. Alors, avec les excès auxquels ça a pu conduire, mais ce qui me semble, c'est que le risque s'est déplacé en réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que l'alimentation telle qu'elle était au XIXe siècle comportait, il y avait un certain nombre de risques, mais maintenant les risques avec cette industrialisation, si on prend le cas de la viande, on est passé de l'élevage. Alors j'aime pas trop le mot traditionnel de l'élevage, non pas à un élevage industriel, mais à ce qu'une anthropologue française qui s'appelle Jocelyne Porcher appelle les productions animales, c'est-à-dire qu'on est c'est pas de l'élevage industriel, c'est des productions animales. Alors le risque s'est déplacé à différents égards. Il s'est déplacé d'un point de vue environnemental parce que on s'aperçoit les limites et les questions environnementales que pose l'agriculture ou les productions animales. Il s'est déplacé d'un point de vue de la santé, puisque l'usage des pesticides et leurs conséquences, dont on ne connaît pas toujours d'ailleurs aujourd'hui les effets, posent de réels problèmes. Et c'est vrai que la génétique et ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire la façon dont les gènes s'expriment au cours de la vie, on s'aperçoit que ça, l'alimentation, la toxicité de l'environnement influe sur la façon dont les gènes s'expriment et donc sur les risques en termes de maladies. Donc, en fait, pour résumer, je pense que le risque s'est déplacé. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de classes de risques et maintenant on a une autre style de classe de risque avec la production, on va dire, à une échelle plus massive, on va dire. Ce qu'on appelle ou les productions animales ou l'agriculture plus massive, voilà.
Et puis il y a une conséquence qui est une perte terrible de biodiversité. C'est-à-dire que, par exemple, ne serait-ce que pour les races de poules, vous avez perdu en France 90% des races de poules qui existaient au début du XXe siècle, par rationalisation. De même sur les races bovines, c'est pareil, il y a une déperdition absolument monstrueuse, et donc cette déperdition est aussi une déperdition de goût. Un exemple simple qui montre à quel point tout cela est en train de détruire petit à petit ce qui faisait une richesse culturelle. Mon mari Péricot me raconte toujours, spécialiste, enfin critique culinaire, me raconte toujours que quand il était petit, sa grand-mère, qui était originaire du Cotentin, lui expliquait qu'elle-même, enfant, donc sa grand-mère qui était née au début du XXe siècle, enfant, avait chez son grand-père, le dimanche après-midi, sur le plateau de fromage familial, 14 camemberts du canton. Le canton autour produisait 14 camemberts différents. Et le grand-père savait les reconnaître à l'aveugle. Il savait qu'il y avait le camembert de tel fermier, le camembert de tel autre. Aujourd'hui, en Normandie, il reste actuellement sur toute la Normandie un seul producteur de véritable camembert qui puisse ressembler à ce que c'était, puisque c'est le seul qui fait du camembert bio au lait cru de vache normande avec du lait de foin, c'est-à-dire nourri non pas à l'ensilage, c'est-à-dire du maïs fermenté qui n'a aucun goût, qui est absolument ignoble, mais avec du foin, c'est-à-dire des herbes coupées.
Et il y a une production familiale depuis plusieurs générations.
Alors ce fermier-là est un cas extrêmement intéressant puisque il était dans la logique industrielle classique, d'ailleurs syndiqué à la FNSEA. Et puis, petit à petit, il s'est rendu compte de l'aberration de ce qu'il était en train de faire. C'est-à-dire qu'il a eu un cheminement intellectuel pour comprendre que tout cela n'était pas satisfaisant. D'abord, ne l'enrichissait pas, était en train de détruire sa terre. Et il a travaillé pour retrouver toutes les techniques qui étaient celles de son grand-père, mais de façon moderne. Aujourd'hui, il produit entièrement sur sa ferme, avec une autonomie énergétique et une autonomie pour ce qui est de la nourriture de ses animaux. Il a un puits sur sa ferme. Les autorités lui expliquent que, alors qu'il y a 45 hectares bio autour, il n'a pas le droit d'utiliser l'eau parce qu'elle n'est pas conforme, ça n'a pas été tamponné, donc il n'a même pas le droit d'utiliser son eau. Donc on voit l'aberration administrative, la logique totalement normative qui est en train de détruire. Et il me dit lui-même qu'aujourd'hui il a 4 labels, donc bio, lait cru, etc. Et il lui faut 4 labels pour faire le camembert que faisait son grand-père. Jacques Attali.
Cet exemple est très intéressant. Est-ce que l'avenir, tel que vous le voyez, vous, correspond à celui que vient d'écrire Natacha Bellini, c'est-à-dire une lutte entre une industrialisation qui serait mortifère et la renaissance de ce qui était avant, autrement dit, sur le thème « c'était mieux avant », ou est-ce qu'au contraire, il y a pour vous, dans les recherches, mais je caricature volontiers, Natacha Bellini, elle le sait, je vous caricature.
Je pense que c'est la modernité, au contraire, du moment qu'on fait ce qu'il y avait de bien avant, mais avec des techniques intelligentes et modernes.
C'est bien ce que vous avez, j'ai bien compris ça et je l'insiste. La modernité serait la récupération de ce qu'il y avait de mieux avant et en essayant de l'enrichir de l'avenir. Mais dans votre travail sur le 2.0, comment vous voyez l'évolution des tendances de l'alimentation ?
Richard Delerens.
Je voudrais commencer par un point qui sont les terroirs dont Natacha vient de parler. On oublie souvent, et ça, que les terroirs, la notion de terroir, d'un point de vue, on va dire, aussi administrative et quasiment juridique, elle a été constituée au 19e siècle, lorsqu'on a sorti les premières cartes géologiques de la France. Et donc, on a construit le terroir sur les cartes géologiques. Aujourd'hui, et c'est intéressant parce que les Américains sont fascinés par la notion de terroir, parce qu'il y a des livres qui sortent aux États-Unis sur le terroir, comment parce qu'eux, ils ne connaissent pas la notion de terroir, comment ils... Dans leur, on va dire, un des désirs, c'est de constituer des terroirs en Amérique. Alors, les Californiens adorent ça parce qu'ils ont constitué des vignobles au début du XXe siècle. D'ailleurs, en grande partie avec des cépages français. Mais le souci, c'est de comprendre.
Ceux qui font le vin aux États-Unis sont pas des vignerons, justement.
Non, ce ne sont pas des vignerons. Mais les cépages, la question des terroirs est importante parce que la question des terroirs est en train d'être revisitée, j'allais dire. Non pas simplement dans sa dimension de géologie, climatique, etc., mais aussi dans sa dimension microbienne. C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre que ce qui fait aussi les terroirs, alors que ce soit dans les fromages, alors je prends le mot terroir au sens large, hein, c'est-à-dire tout cet environnement, ce sont les microbes et les micro-organismes qui vivent avec les plantes. Ces micro-organismes, ces micro-vivants, ces micro-commensaux, comme on emploie les gens qui font des food studies, appellent des micro-commensaux, c'est-à-dire ceux qui se nourrissent et qui nous nourrissent et qui accompagnent tous ces éléments, toutes ces plantes. Donc ces terroirs sont essentiellement dû aussi à tous ces microbes et ces bactéries. Alors, quand si on va chez un fromager, c'est les bactéries qui sont sur le mur, ce sont les mains du fromager, et tout ça, et sur les planches de bois sur lesquelles les fromages vieillissent, et tout ça, ça fait le terroir. Et donc, ce que font les Américains...
Ce sont des bons et des mauvais microbes, il faut préciser.
Oui, alors bon, alors laissons tomber les mauvais microbes, non pas qu'il n'y en ait pas, mais ça, j'allais dire qu'on les traque. Mais ça, c'est la dimension du risque alimentaire. Mais si on évacue la question du risque alimentaire, les bons microbes, il y en a plein. Et il y en a d'autant plus qu'on s'aperçoit que ce qui fait notre santé, c'est un nouveau paradigme pour répondre à la question un peu de l'alimentation demain. Une des dimensions clés, à mon sens, on comprend aujourd'hui que ce qui fait notre santé, ce qui contribue à notre nutrition, ce sont aussi tous les micro-organismes qui vivent en nous. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que le nombre de cellules de toutes les microbes et les bactéries qui vivent à l'intérieur de notre propre corps, leur nombre est 10 fois plus important que celui de nos propres cellules. Ce qui pose une question philosophique, c'est-à-dire est-ce que c'est eux qui vivent avec nous ou c'est nous qui vivons avec eux? Donc, et ça, une partie de cette biodiversité, notre biodiversité intérieure, elle vient de l'alimentation et elle vient des terroirs.
Nous ne serions que le prétexte de leur existence.
Ah, ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question.
Principe d'humilité.
C'est une vraie question.
Mais le ferment est la base de la vie et il se trouve que, notamment la culture culinaire française est fondée sur le ferment, que ce soit le vin ou le fromage. Et j'ai déjà vu un producteur de fromage pleurait d'avoir perdu sa flore parce que les normes hygiénistes faisaient qu'on exigeait qu'il nettoie tous les jours à l'eau de Javel tout son laboratoire où il faisait son fromage. Et du coup, son fromage n'était plus le sien puisqu'il a été obligé de demander des ferments aux voisins. Et tout ça dans une logique totalement aberrante puisqu'en effet, il y a un équilibre entre les fameux bons microbes et les mauvais. Et plus de la moitié des accidents bactériologiques qu'il y a eu sur des fromages récemment l'ont été sur des fromages pasteurisés, industriels. Mais on a cette peur aujourd'hui de toute la vie microbienne.
Alors, si l'un et l'autre pouvaient décrire comment vous voyez la tendance de l'évolution, à la fois telle que vous la pensez et telle que vous la souhaitez, ce qui n'est pas évidemment la même chose. Comment est-ce que vous décririez ces deux scénarios, l'un et l'autre ?
Natacha Polony.
Disons que je crains qu'il y ait petit à petit une scission dans les sociétés occidentales entre une petite part de la population qui va être consciente de la nécessité de récupérer une forme d'autonomie dans son alimentation, une capacité à choisir, à décider des produits, à connaître leur origine, à savoir dans quelles conditions ils ont été produits, et toute une part de la population qui serait totalement privée de cette autonomie, qui est une autonomie fondamentale, puisque se nourrir, c'est aussi ingérer quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus intime. Et bien, dans cet acte le plus intime et le plus culturel qui soit, une très grande part de la population est privée de sa capacité, de son libre arbitre. Et je crains que nous n'allions vers une scission de plus en plus grande, parce qu'il y a une prise de conscience, mais elle est le fait d'une petite partie de la population. Et les autres, on les laisse finalement comme chair à consommer, parce que on a besoin de cela pour perpétuer cette logique industrielle.
Monsieur Nélan, comment voyez-vous ça ?
Moi, je suis pas si. Alors là, pour le coup, je suis pas si. Je suis plutôt optimiste, à vrai dire, sur l'avenir de nos systèmes alimentaires et de l'alimentation. Je pense que après cette réduction de diversité, et ça, c'est absolument un fait. Si on prend les marchés en France au 18e, 19e siècle, on prend juste les poires. Il y avait 150 variétés de poires qui avaient des noms extraordinaires,
poésie
incroyable, etc. Et aujourd'hui, si on va, les nombres de variétés de poires qu'on trouve dans le commerce, on doit les compter sur les doigts d'une main. Bon. Mais, c'est ce qui me fait dire, et c'est pour ça que je suis assez optimiste, que, en fait, une des dimensions que je vois, j'allais dire, de la perspective californienne, c'est qu'il y a une revalorisation du vivant et de la diversité du vivant. Alors, à travers cet univers, on va dire, des microbes, des bactéries, de cette construction de terroirs, sur le fait que les questions aussi, les limites, on n'en a pas parlé, mais les limites de, on va dire, de la production animale de masse se heurtent aussi au bien-être animal. Bon, ça, c'est une question où il y a énormément de visibilité aujourd'hui sur le bien-être animal. Mais je ne pense pas que ce soit, j'allais dire, que ces améliorations, cette réinjection de diversité dans les productions, dans les modes de consommation, ne soit réservée qu'à, on va dire, un petit nombre. Juste un exemple très concret, c'est que McDonald's aux États-Unis a décrété que d'ici 2025, tous les œufs qui seront consommés par McDonald's, qui est un des plus grands consommateurs d'œufs aux États-Unis, ce seront des œufs de poules qui sont élevés en plein air. Donc c'est pas bon, c'est juste un exemple. Bien entendu, on peut trouver des domaines dans lesquels c'est pas aussi merveilleux. Mais les millennials, c'est-à-dire ceux qui ont entre 18 et 35 ans, sont très soucieux de ces questions d'alimentation et se définissent aussi par rapport à ces questions d'alimentation. À tel point qu'aujourd'hui, 60% des millennials américains se déclarent foodies, c'est-à-dire considèrent que l'alimentation, la façon dont ils consomment leur acte alimentaire, constitue ce qu'ils sont. Donc je suis en ce sens assez positif et assez optimiste.
Si ce que vous dites est vrai, ça aurait dû entraîner un effondrement des grandes entreprises agroalimentaires américaines ou européennes qui produisent tout le contraire de ce que vous venez de décrire.
Pas exactement, parce que vous avez des entreprises maintenant comme Danone, ou de grosses entreprises américaines qui rachètent des start-up qui sont en train de, des start-up alimentaires, qui sont financées en partie d'ailleurs par des fonds d'investissement de la Silicon Valley.
Oui, mais c'est pas l'essentiel de la production.
Non, c'est pas l'essentiel de la production, mais le bio, il y a 20 ans, le bio, l'organique aux États-Unis représentait sans doute moins d'1% de la production. Aujourd'hui, ce qui faisait un peu partie d'une contre-culture alimentaire, aujourd'hui, c'est mainstream. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des supermarchés, des chaînes de supermarchés bio, même en France aujourd'hui qui se développe. Aux États-Unis, vous avez Whole Food Market qui est une énorme chaîne de supermarchés organiques. Donc, Non, ça change la distribution, ça change l'offre. Bien sûr, en 20 ans, ça a beaucoup changé, mais les grandes entreprises sont en train d'investir ou rachètent des startups ou investissent dans ces domaines éthiques, bio, bien-être animal, etc.
Mais là, il y a eu certaines alertes économiques aux États-Unis parce que des blogueuses en vue avaient commencé à s'intéresser à la question de la qualité de l'alimentation et à alerter sur le fait que la nourriture industrielle était néfaste. Et donc, il y a eu des baisses de revenus qui ont imposé, en effet, ces changements de logique. La question est de savoir si ces changements de logique sont suffisants. C'est-à-dire, est-ce que ça suffit de se tourner pour une part vers le bio, mais quitte à le faire passer dans une logique industrielle. Ou bien, est-ce que l'avenir n'est pas dans la relocalisation des échanges, la relocalisation de l'agriculture, d'abord parce qu'il va y avoir des enjeux qui sont des enjeux de pollution générale de la planète. Je veux dire, ce qui résume notre système alimentaire aujourd'hui, c'est cette anecdote qui date d'il y a une dizaine d'années. Un accident sur une autoroute française, un camion de tomates venant de Hollande et allant vers l'Espagne, a percuté un camion de tomates venant de l'Espagne et allant vers la Hollande. On touche le fond de l'aberration. Eh bien, tant qu'on ne remettra pas en cause cette logique, évidemment, on aura petit à petit une destruction de certains processus et une mise en danger. Les problèmes de grippe aviaire qu'on rencontre et qui ont abouti à l'éradication de certains élevages, et en particulier des petits éleveurs de canards, elle vient de la logique industrielle. C'est le fait de regrouper énormément d'animaux dans un même endroit et ensuite de les déplacer pour aller produire le foie gras, parce qu'évidemment, on élève les canards à un endroit et on produit le foie gras à un autre, qui provoque la contamination. Or, ça a tué des petits éleveurs paysans qui, eux, font tout sur place et n'ont jamais eu la moindre...
Je comprends ce raisonnement, mais je voudrais essayer de comprendre votre façon l'un et l'autre de répondre à l'objection suivante. Nous sommes passés d'un monde où 70% de la population était paysanne à un monde où 2% de la population est paysanne. Il faut faire avec. À moins d'imaginer que les 50 ans qui viennent seraient marqués par un retour à la terre et où, parce qu'il y aurait une demande de produits locaux, les habitants des grandes villes ne se nourriraient que par des paysans qui sont encore inventés et où le deviendraient eux-mêmes. Il faut vivre avec le fait que la population paysanne a disparu, pratiquement, et que donc l'industrialisation est un fait, comme ont été un fait toutes les évolutions industrielles qui ont conduit à la modification des systèmes. Donc, est-ce que, pour vous, la survie de l'humanité passe par un retour à la terre de la moitié de la population de la planète, avec toutes les conséquences que ça peut... penser, la conséquence logique de ce que vous avez dit, ou est-ce qu'au contraire, il faut trouver une façon, et c'est plutôt ce que disait, je crois, M. Delresse, de faire en sorte que l'industrie elle-même évolue pour devenir... alors, est-ce que ce serait un alibi, ou est-ce que ce serait sincère, est-ce que ce serait vrai, ou est-ce que ce serait fictif, c'est une grande question, producteur des biens dont on reconnaît ici tous autour de cette table, qui sont absolument vitaux à l'avenir de l'humanité.
Natacha Polony ?
Je crois que je vous répondrai les deux. C'est-à-dire que je pense qu'on ne pourra pas éradiquer la logique industrielle et donc il faut faire en sorte qu'elle se tourne vers le développement de techniques qui soient moins destructrices, qui prennent en compte tout simplement tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'importance de la vie bactériologique, la prise en compte de la non-pollution des sols. Et puis, je reste persuadée qu'il faut qu'une part de l'humanité retourne à la Terre. Alors, je sais qu'il y a un côté éminemment réactionnaire, absolument, dans ce que je viens de dire. Affirmé. On peut aussi y voir un programme polpotien absolument monstrueux.
Ah oui. Non, j'ai cru que vous alliez dire retourne à l'école, parce que finalement c'est une question d'éducation.
Non, retourne à la terre.
Mais alors, c'est très lié. Et je vous conseille de lire les travaux d'un homme absolument extraordinaire qui s'appelle Jacques Puiset, qui est un de ceux qui a classé en AOC une bonne partie des vignobles français, qui est philosophe du goût et inventeur de la notion de psychosensorialité. C'est-à-dire qu'il vous explique comment vous ne percevez pas les sensations gustatives de la même manière suivant le lieu où vous vous trouvez, le moment où vous êtes. Et vous pouvez goûter un vin sous une lumière verte, sous une lumière rouge, sous une lumière jaune. Ce n'est pas le même vin. Il n'a pas le même goût. Et donc tout cela permet de comprendre comment fonctionne aussi la notion de terroir et son rapport avec notre humanité profonde et nos sensations. Et bien cet homme-là a inventé des classes du goût, c'est-à-dire une formation pour les instituteurs qui leur permet de faire comprendre à un enfant ce que sont les sensations. Se réapproprier le fait de croquer une pomme, de savoir que c'est juteux, que c'est sucré, que c'est acide, que c'est croquant, et comprendre tout le processus de production. Relier les mots avec l'histoire, la géographie, les perceptions humaines. Eh bien, je pense que l'avenir de l'humanité, c'est ça, parce que c'est la seule façon de reconquérir une forme d'autonomie.
Général, est-ce que vous pensez que c'est possible ou que l'industrie va produire dans des conditions économiques raisonnables les produits bio et liés au territoire?
D'une part, je pense que une partie des industriels, pour des raisons simplement propres au fonctionnement
à la demande,
seront obligés d'intégrer cette dimension, enfin différentes dimensions, que ce soit bien environnementale, de bien-être animal, de santé, vont intégrer ces dimensions. Ça, c'est une chose. Bon, et on le voit déjà, ça a déjà commencé. Par ailleurs, on assiste déjà, en tout cas, je le vois en Californie, je dirais pas exactement un retour à la terre, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça, où on voit de jeunes gens diplômés de grandes universités américaines créer des fermes avec des modèles de développement originaux, créer des élevages, développer, aller se former. Moi, j'avais rencontré le roi de l'endive californienne. Alors, c'est un garçon qui est sorti de l'université de Californie, Davis, et puis il est parti 2 ans en Belgique voir comment on faisait les endives, et puis il est revenu. Personne ne mangeait d'endives aux États-Unis, hein, pour vous dire la vérité. Il est revenu, il a créé son exploitation, il a lancé, et il est devenu, alors c'est vrai, c'est le modèle américain, il est devenu très riche, il est devenu le roi de l'endive. Mais donc ça existe.
Mais est-ce que, là encore pour faire l'avocat du diable, est-ce que l'élection de M. Trump n'a pas montré que la Californie n'a rien à voir avec les États-Unis?
Ah, ça c'est presque un autre débat.
Oui, autrement dit, est-ce que l'industrialisation dans la pire dimension n'est pas en marche, en marche au sens non métaphorique, en raison de ce que la société américaine continue à être une société tournée vers...
J'ai assez, en un sens, confiance dans la société américaine. À la fois, elle peut faire les pires des choix, mais elle est capable de s'auto-réguler et de changer rapidement. Et les consommateurs américains, finalement, font la loi.
Il y a aussi, encore une fois, il y a une logique géographique. Les États-Unis n'ont pas la même géographie que la France, par exemple, ou que la plupart des pays d'Europe. C'est-à-dire que l'industrialisation de l'agriculture, elle vient aussi du fait qu'il y a des espaces absolument immenses, alors que la culture européenne, anglaise, française, par exemple, de l'élevage, repose sur la notion de bocage, et ce qui a créé un équilibre écologique absolument fondamental, parce que le bocage, ce sont les petites haies qui permettent aux oiseaux de nicher, qui permettent aux insectes de se réfugier. Et si on détruit tout cela pour plaquer un modèle industriel qui convient à la géographie américaine sur la géographie européenne, on détruit non seulement culturellement ce qui fait la diversité des cultures alimentaires, mais on détruit aussi l'environnement. Le remembrement a été une catastrophe absolue, et le premier à l'avoir reconnu est Edgar Pisani. Il estime que ce fut une grande erreur dans sa vie.
Mais c'est pourtant lui qui en est un des...
Mais bien sûr, c'est lui qui l'a mis en place.
Vous parliez du pain tout à l'heure, monsieur Lorenz.
Oui.
Vous pensez que c'est une grande constante ou son industrialisation va en faire disparaître le goût?
Le pain? Alors le pain, c'est un exemple merveilleux, parce qu'au fond, si on prend le cas de la France, c'est l'historien américain qui s'appelle Stephen Kaplan qui raconte ça dans un livre qui s'appelle
Le retour, absolument majeur.
Voilà, le retour du bon pain, mais il a travaillé sur le pain pendant la Révolution. Enfin bon, c'est l'historien. Le maître du pain, qui est un Américain marié à une Française d'ailleurs, et qui raconte très bien que depuis, on va dire, c'est au moins ces 20-30 dernières années, on a un grand retour du bon pain, parce que le pain des années 60-70, cette baguette qui était relativement uniforme, elle était vraiment au fond très triste, et on a maintenant, grâce au travail, on va dire, des meuniers, grâce au travail de la profession, on a réintroduit une diversité dans l'offre de pain en France, et le pain n'a jamais été d'une certaine façon aussi bon, aussi divers, et donc ça, c'est un point extrêmement positif.
Et ça nous prouve que la logique industrielle peut aussi aller vers le meilleur. C'est-à-dire que quand il y a une contestation de cette logique, parce qu'il a fallu que certains s'élèvent contre le fait que le pain était devenu absolument ignoble. Même chose pour le jambon industriel, qui était une immondice, et là, c'est Jean-Pierre Coff qui a été le premier à alerter là-dessus. Eh bien, les industriels ont travaillé là-dessus et ils se sont améliorés. Et aujourd'hui, certes, le jambon industriel ne sera jamais équivalent à un jambon à l'os de charcutier, d'artisan, mais pour ceux qui ne peuvent se nourrir que de cela, eh bien, il est bien meilleur qu'avant. Donc en fait, il y a une pression permanente qui doit être exercée sur l'industrie pour la pousser à son meilleur. Et là, il peut y avoir une amélioration, même dans une logique industrielle. Donc c'est un équilibre à trouver. Le problème, c'est quand l'industrie détruit les petits, les artisans, et va vers une logique hégémonique, qui est la négation, finalement, du vrai libéralisme. Et c'est ça qui détruit aussi la diversité.
Il nous reste 4 minutes. Je voudrais demander à chacun d'entre vous, en 1 ou 2 minutes, de répondre à la même question qu'on pose à peu près à tous nos invités. Si vous aviez une recommandation en matière d'alimentation, de conduite culturelle à donner à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Peut-être commencer par vous, puis vous conclurez, Natacha.
Richard Delérins.
Une recommandation, je dirais que de s'intéresser à toute à une richesse qui est absolument incroyable, que sont les aliments fermentés. Et aussi bien dans les cultures qui ont été développées, dans les cultures en Asie, à travers tous les légumes fermentés, que ce soit les kimchi coréens ou au Japon. Donc de découvrir tout ce registre alimentaire. Alors bien sûr, on ne parle pas du pain, du fromage et du vin, qui sont, j'allais dire, une espèce de fondement de la culture culinaire française.
Qui sont fermentés.
Et qui sont bien sûr fermentés, mais de découvrir la richesse des aliments fermentés. Bien sûr, le yaourt, mais qui n'est pas dans la culture à l'origine. La culture française n'a rien à voir avec les yaourts. Ça, c'est une histoire absolument merveilleuse qui relie les sciences et l'industrie, puisque au début du siècle, c'est juste une petite anecdote pour terminer, vous aviez un biochimiste russe à l'Institut Pasteur qui s'appelait Ilya Metchnikov, qui travaillait sur les bacilles des yaourts en Bulgarie, enfin des kéfirs des yaourts, et puis il a découvert que finalement c'était très bon pour la santé, pour simplifier. Et puis vous avez quelqu'un qui était un entrepreneur qui s'appelait Isaac Carasso, qui était à Barcelone et qui a décidé d'importer les ferments de yaourt bulgare, de lancer sa petite compagnie à Barcelone d'abord et puis ensuite en France. Cette compagnie, il l'a appelée Danone.
Du nom de son fils.
Voilà, exactement. Et dont l'histoire, on la connaît. Et là, il s'agit bien d'aliments fermentés. Et c'est devenu, comment dirais-je, un standard de l'alimentation française que sont les yaourts, ce qui n'était pas à l'origine.
Donc
mon conseil, c'est de regarder la diversité des aliments fermentés. Voilà.
Et moi, d'abord, c'est de se souvenir que avaler sans goûter n'est que ruine du palais, et que donc il faut réfléchir à ce qu'on mange et non pas absorber des calories, et ensuite toujours s'adapter au lieu, comprendre où l'on est et se nourrir en fonction du lieu où l'on est, de la lumière, du climat, de la botanique, de la géographie.
Vous avez 3 enfants, Natacha Polony. Qu'est-ce que vous leur transmettez comme conseil ou comme valeur quant à l'alimentation, leur manière de se nourrir?
La curiosité et le fait de toujours se demander comment cela a été produit. Pourquoi cette pomme est là? Quelle est son histoire? Quelle race de pomme? Qui l'a faite? Dans quelles conditions? Que ce soit une pomme, un verre de lait, ils s'intéressent à cela. Ils savent quelles vaches ont fait le lait qu'ils boivent.
Ils connaissent la vache? Non, quand même pas.
Ils ont rencontré les vaches qui ont produit.
Ça, c'est un luxe que tous les Français
boivent.
Ne peuvent se permettre.
En effet, mais au moins sur certains aliments, rétablir cette culture et apprendre aux enfants ce que c'est que tel ou tel légume, parce qu'aujourd'hui, 80% des enfants ne savent pas reconnaître une courgette ou une aubergine. Voilà. Donc revenir simplement à cela.
Les origines, les provenances et après les saveurs.
Et après les saveurs et leur apprendre à nommer leurs sensations. Leur demander, en parler avec eux. Comment est ce fromage? Comment le trouves-tu? Est-ce qu'il est moelleux? Est-ce qu'il est crémeux? Est-ce qu'il est onctueux? Voilà.
Ça me rappelle cette phrase qu'on prête au prince d'Angleterre, Édouard, avant qu'il soit roi. Et quand il voyait quelqu'un boire un verre de vin, il disait « Un vin, ça ne se voit pas, ça se regarde,
exactement.
Ça se respire, ça se goûte, et après, surtout, on en parle. »
Bien sûr. C'est notre humanité qui est là. Le verbe, mais après le goût.
Merci Natacha Polony, merci Richard Delérins. C'était Le Sens des Choses, à la réalisation Doria Zénine, à la technique cet après-midi, Philippe Thibault. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet franceculture.fr où vous retrouverez toutes les informations liées à nos invités. Vous pourrez également réécouter et podcaster l'ensemble des émissions de notre série. Et pour ceux qui souhaiteraient nous écrire, voici une adresse email j@atali.com. Merci de votre fidélité. Très belle fin de journée à l'écoute de France Culture.